Mais vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Josué au chapitre 24. Et ça va être bien entendu le verset 15 qui va nous servir de réflexion pour cette semaine. Daphné serait fière de moi, je viens de tousser dans mon coude. Même après un an, j'oublie encore régulièrement. Je le fais dans la main habituellement. C'est une mauvaise chose, mais l'habitude ne s'est pas encore prise totalement. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour Babette. Bien le bonjour à votre époux Andreas. D'accord, alors on va prier et après ça on débute et je vous donne aussi deux requêtes importantes pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, un moment où nous plongeons nos regards dans ta parole, que celle-ci puisse nous nourrir, nous abreuver avec toute la richesse que tu y as apposée, que tu y as accolée de toute éternité. Nous savons Seigneur que cette parole n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit des circonstances, mais le fruit de ta volonté pour nous aujourd'hui. Alors Seigneur, merci d'étendre ta main, d'ouvrir notre entendement, notre compréhension à ta parole. Et nous prions Seigneur qu'effectivement nos cœurs soient réceptibles à celle-ci, que nos décisions aillent de pair ou en direction avec ta volonté. Et qu'en toute chose Seigneur, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, quoi que nous disions, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne à toi. Et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le tout précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, je vous donne deux ou trois requêtes que je vais écrire ici aussi tout à l'heure pour prier à la toute fin. Hop. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, trois requêtes de santé importantes. Le pasteur Bernard, donc mon papa, toujours hospitalisé, on fait une multitude de tests, mais il y a encore certains tests importants qui ont été retardés parce qu'il y avait des petites complications au niveau de la santé. Donc on est en train de régler certaines petites situations qui vont lui permettre de passer un test notamment qu'on appelle excuse, qu'on appelle une cardioscopie ou une cardioscopie. Donc, on introduit une caméra par une veine qui va jusqu'au cœur et on prend donc des photos à l'intérieur du cœur. Ça permet non seulement de voir s'il y a des secteurs qui sont bloqués, s'il y a des caillots de sang qui pourraient s'être formés au niveau du cœur, mais ça permet d'avoir aussi une meilleure image ou une meilleure idée de la constitution du cœur. Pour l'instant, tout est beau, mais c'est un examen important et de surcroît à cela, on profite aussi de l'occasion pour brûler certaines parties, des petits morceaux du cœur qui pourraient accentuer les questions d'arythmie. Donc on vous prie donc de prier pour mon père, ça devrait être aujourd'hui, en tout cas cette semaine probablement, donc priez pour lui. Aujourd'hui pour sûr. Le pasteur Jonas est à l'hôpital aujourd'hui. On vous a dit qu'il devait être opéré. Donc, pour là encore, ce que certains vont nous demander, mais de quoi il est opéré, tout ça, ça reste entre lui, sa famille et puis la congrégation pour ceux qui savent. Donc, mais on prie. C'est une opération invasive. Donc, on va demander au Seigneur d'intervenir. À l'heure actuelle, il devrait être déjà soit dans la salle où on va l'anesthésier ou en préparation de l'intervention. Donc, on prie donc pour le pasteur Jonas, c'est notre pasteur dans l'ouest de l'île, ici à Pierrefonds. Et enfin, on prie pour Eric. Toujours aux soins intensifs, toujours avec la trachéotomie. Je ne sais même pas si une trachéotomie est rétractable dans le sens où est-ce qu'on peut revenir en arrière, est-ce qu'il va éventuellement pouvoir parler avec normalement sans la trachéotomie, je ne saurais vous dire. Donc je sais que il est un peu plus éveillé, on a arrêté la sédation, mais ça reste difficile pour lui de s'habituer à cette trachéo. Et puis bien entendu, c'est difficile pour sa maman. Donc, on prie pour lui, pour Eric. Alors, les trois requêtes pour aujourd'hui, mon père, le pasteur Jonas, et puis le frère Eric. Mais on revient à ça tout à l'heure. Alors, on ouvre nos Bibles dans Josué au chapitre 24, le verset 15, qui nous sert de méditation aujourd'hui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je répète le verset. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors que Dieu bénisse sa parole. Et comme j'ai dit un peu plus tôt cette semaine, au lieu d'avoir quatre enseignements plus un temps de prière, on va vraiment étendre l'enseignement jusqu'à vendredi, donc cinq enseignements cette semaine. Pour bien étayer l'ensemble des réflexions qui nous sont inspirées donc par ce verset. On poursuit simplement dans la même veine qui a été lancée ou entreprise par le pasteur Sergio hier lors de je m'excuse, qui a été entrepris par le pasteur Sergio lors de la prédication d'hier matin. Aujourd'hui, pour bien débuter, on s'arrête sur deux termes tout simples. Dans la première partie du verset, on nous dit « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel », c'est un choix qui va être donné au peuple d'Israël de se brancher, en bon québécois, de décider qu'ils vont servir. Et Josué regarde l'ensemble du peuple, l'ensemble de ses compatriotes et dit « Vous avez trois choix ». Ou vous servez l'Éternel, ou vous servez les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou vous servez les dieux des Amoréens, qui sont les dieux que vos prédécesseurs dans ce territoire adoraient. Il dit, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, il est important de savoir de quoi on parle. Servir l'Éternel. Donc, ça va être les deux seuls termes qu'on va étudier aujourd'hui. Je vous donne les noms les mots en hébreu, puisque vous savez, c'est l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été principalement écrit en grec, avec quelques parties, essentiellement le livre des Hébreux, les livres aux Hébreux, qui a été écrit en araméen, mais sinon le Nouveau Testament, en règle générale, est en grec. Donc, puisqu'on est dans l'Ancien Testament aujourd'hui, c'est donc des termes tout au long de cette semaine qui seront des termes en hébreu. Alors, le premier terme, servir, le pasteur Sergio l'a mentionné hier, c'est le terme abad. Abad. Ça, c'est pour ceux qui prennent des notes et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Donc, servir, abad, abad, et éternel, l'éternel, donc Yehovah, Yehovah. Donc, c'est un terme qu'on utilise régulièrement, que vous avez régulièrement entendu de ma bouche pendant les bénédictions matinales, mais je vous le répète, Yehovah pour éternel, donc YEHOVAH, YEHOVAH, j'agrandis parce que je ne veux pas passer outre les petites notes que j'ai. Donc, servir l'Éternel. Première chose qu'on doit comprendre, nous avons été créés pour servir. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés. En fait, lorsqu'Adam et Ève ont été créés, et on le voit principalement lorsque Dieu s'apprête à créer Ève, La Bible dit que la tâche est trop grande, strictement, pour Adam, et qu'il va lui faire une compagne. Le terme compagne, c'est un terme qui va avec une notion qui se perd un peu en Occident, surtout en Amérique du Nord, mais qui est encore assez présente dans certains corps de métier en Europe. Ce qu'on appelait les compagnons d'une profession. Donc, les compagnons de la boulangerie, les compagnons, je ne sais pas moi, de la tannerie, les compagnons de la cuisine. En fait, l'idée du compagnon, c'était quelqu'un qui se mettait comme un disciple au pied d'un maître. C'est quelqu'un qui allait pendant un certain temps apprendre un métier auprès de quelqu'un qui était reconnu comme connaissant tous les recoins et puis toutes les facettes du métier et qui transmettait ça à une nouvelle génération, donc à une génération de compagnons qui allaient éventuellement eux-mêmes devenir des maîtres en la matière. C'est pour ça qu'on avait des termes comme des maîtres boulangers, des maîtres cuisiniers, des maîtres électriciens. C'est des vestiges de cette ancienne façon de fonctionner où on avait des maîtres qui enseignaient à des disciples. Et lorsqu'on parle de compagnons ou de compagnes dans le cas d'Ève au niveau de la création, c'est vraiment que Dieu voulait qu'Adam et Ève travaillent à une même charge. Et cette charge-là, certains vont dire, ah oui, c'était adorer Dieu, c'était célébrer Dieu. Célébrer Dieu, adorer Dieu devrait être quelque chose de tout à fait normal, ne devrait pas être une tâche. La tâche pour laquelle Adam et Ève ont été créés, c'était pour s'occuper du jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu va faire défiler tous les animaux devant Adam pour voir comment Adam va les nommer. Et ils passent les uns après les autres et Adam, inspiré, venant de lui-même, je ne sais pas comment le processus s'est fait, mais il va donner un nom à chacun des animaux qui va passer devant lui. Et par la suite, donc, il doit s'occuper du jardin d'Éden. C'est sa responsabilité, voir à ce que tout se fonctionne bien, à ce que tout pousse bien, à ce que le jardin soit entretenu. Et Dieu va dire, cette tâche-là est trop grande pour lui. J'ai trouvé personne pour l'assister et je vais donc lui créer une compagne, donc quelqu'un qui l'assiste dans le travail. Ce qui nous amène à concevoir qu'à la base, Adam et Ève ont été créés pour servir. J'aime le sigle que l'armée du salut a apposé sur leurs uniformes. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'armée du salut, ça va bien au-delà d'une question de tout simplement faire des œuvres caritatives, faire preuve de générosité. On sait qu'en Occident, principalement en Amérique du Nord, l'armée du salut est devenue plutôt un organisme communautaire qui prend soin des moins bien nantis, qui, dans certains cas, offre des repas gratuits. Vous les voyez, surtout à l'époque de Noël, ils vont se présenter dans certains centres d'achat, particulièrement au centre-ville de Montréal, et ils vont être là avec une petite clochette et ils attendent des dons pour les œuvres auxquelles ils sont affairés. Mais si vous regardez, ils portent un uniforme qui a l'air d'un uniforme militaire et c'est de là que vient donc le terme armée du salut. Et sur cet uniforme, au niveau de l'épaulette, ils ont un sigle SS. Soyez sans crainte, c'est pas les SS nazis de l'armée hitlérienne, ça n'a rien à voir avec ça. Ils étaient là bien avant les SS nazis, allemands ou autres. Et le terme SS ici, pour ce groupement-là, voulait dire, et c'est en anglais parce que le fondateur était britannique, ça voulait dire « saved to serve ». Donc, ils ont sauvé pour servir, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, ça veut dire que dans leur ADN en tant que groupe, c'est déjà acquis pour eux que s'ils sont sauvés par Christ, c'est pour servir. Et c'est une notion qui, malheureusement, se perd au niveau de l'Église contemporaine. On vient à Dieu avec toute cette pensée de ce qu'il va nous amener, de ce qu'il va nous apporter. Et assurément, être près de Dieu, il y a un tas de bénéfices. Et on devrait effectivement être conscient de ces bénéfices et puis rendre grâce à Dieu pour tout cela, tous les bienfaits qu'on reçoit au fait d'être dans la présence de Dieu. Mais au-delà de cela, de tout ce que ça nous apporte, en tant qu'enfant de Dieu, je dois aussi rapporter à Dieu. Pensons tout simplement à cette question du pied de la vigne, du cep et des sarments. Et on nous dit que les sarments donnent du fruit et doivent donner du fruit en abondance. Et qu'un sarment, nous croyants, qui ne porterait pas de fruit, serait retranché, coupé. Donc le mandat chez le croyant, tout comme le mandat dans la création de l'homme et de la femme, c'était de servir Dieu et de lui être profitable. Donc à la base, abad veut dire forcer à œuvrer. Ça veut dire différentes choses, mais une des traductions du terme abad en français, ça voudrait dire être forcé à œuvrer. Et là, c'est pas une question de tordage de bras, de tirage d'oreilles, de prise par le collet, puis on nous amène de force au travail. Servir devrait faire partie de la nature humaine. Servir devrait faire partie de la nature du chrétien. Servir Dieu devrait être une chose tout à fait normale, habituelle. En fait, on enseigne sur le fait de servir comme si ça devenait quelque chose d'exceptionnel. À la base, nous avons été créés avec cet ADN pour le service. Nous avons été créés dans cet objectif. Alors, lorsque je viens à Christ en tant que croyant, je dois venir à lui comme quelqu'un qui va servir Dieu. Ça doit faire partie de ma nature chrétienne. Ça doit faire partie de ma nouvelle nature, de ma nouvelle vie. Cette vie à laquelle je renais doit être vouée à servir Dieu. Donc, créer pour servir, premier point pour ce matin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre option. C'est pas une question est-ce que tu peux, oui ou non, servir. C'est tu dois servir, point à la ligne. Je sais là qu'il y a quelqu'un qui publie, je vais le supprimer juste un instant. Voilà. Désolé. Je ne veux pas mélanger mon temps de parole de Dieu avec des marabouts. Voilà. Donc, je sais que certaines personnes vont être là tout simplement pour requérir des choses de Dieu, mais nous devons avoir dans notre pensée comme quoi nous sommes appelés à servir et servir Dieu avec tout ce que nous sommes. Créer pour servir, c'est une chose. Le terme abad va nous parler aussi de trois autres caractéristiques du service. Premièrement, ça va nous parler du coût du travail, du coût du service. Abad va nous parler du travail et du labeur. Ça veut donc dire que je ne suis pas au Club Med. Je ne viens pas à Dieu tout simplement pour me la couler douce. C'est clair, c'est vrai. La Bible nous dit, David va le dire avec éloquence, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il ne dit pas qu'il nous fait vivre dans de verts pâturages. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Nous, on regarde les brebis et on a cette approche très occidentale avec l'aspect un peu bucolique de la brebis. Soyons très clairs, le berger aime ses brebis, ou un bon berger devrait aimer ses brebis, mais ces brebis-là, il les a pas parce qu'il est fan des brebis, un peu comme les chats ou les hamsters ou les lapins qu'on peut avoir en Occident dans nos maisons, ou un peu comme moi avec mon chien. J'aime mon chien, mais dans la pensée biblique, la brebis doit être profitable à son berger. C'est un métier, c'est une occupation, c'est un gagne-pain. Ça veut donc dire qu'il y a un travail qui est représenté par cette brebis. Et cette brebis doit amener du lait, cette brebis doit amener de la laine, cette brebis éventuellement doit amener de la viande, cette brebis éventuellement doit porter, mettre bas, donner naissance. Donc cette brebis doit être profitable. Donc le travail va être un coût. Ça va être un coût en niveau du temps. Le travail, lorsque je m'y lorsque je m'y mets, lorsque je me greffe au travail, je dois savoir que le travail va exiger un coût, que ce soit un coût de temps. Tu ne fais pas du travail sans y mettre du temps. Lorsqu'on parle de travail, on va assurément parler aussi, j'y mets des efforts, j'y mets de la force. Donc non seulement je dépense du temps dans le bon sens de dépenser, j'y investis du temps, mais j'y investis aussi de la force. Lorsque vous construisez quelque chose autour de chez vous, disons que vous travaillez à tondre le gazon, comme j'ai fait il y a quelques jours, mais à la fin de la tonte du gazon, vous avez quand même dépensé de l'effort, dépensé des forces. Ça veut dire que vous devriez être un peu plus fatigué à la fin de la tonte du gazon qu'au début. Donc, lorsque je travaille pour Dieu, il y a effectivement un coût en niveau de force, au niveau du temps, mais de surcroît à cela, il y a aussi un coût au niveau de la qualité. Vous pouvez rendre un travail qui va être vaille que vaille, que le Seigneur se contente, ou vous pouvez honorer le Seigneur en lui donnant ce que vous avez de meilleur. Je suppose que pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous qui m'écoutez ce matin, votre objectif, c'est effectivement de servir Dieu et de lui donner le meilleur service qui soit. Mais ce meilleur service va imposer des efforts, va imposer une précision, va imposer une prise de mesure qui va exiger de vous davantage que si vous lui donniez tout simplement ce qui sort point à la ligne. Quand vous appréciez vraiment quelqu'un, que vous voulez faire plaisir à cette personne, vous mettez davantage d'efforts dans vos préparatifs. Disons que vous faites un gâteau pour quelqu'un et que vous aimez cette personne profondément, vous allez mettre énormément d'efforts dans la conception, dans la cuisson, dans la préparation de ce gâteau. Mais si cette personne ne vous fait ni chaud ni froid et que vous lui faites un gâteau parce que vous devez lui faire un gâteau, ben à ce moment-là, ça se pourrait que ce soit des ingrédients de deuxième qualité. Ça se pourrait que vous ne battiez pas la pâte de la même manière. Ça se pourrait que vous brûliez certaines étapes, tout simplement pour vous acquitter de la tâche un peu plus rapidement. Alors que si vous aimez profondément la personne, vous allez prendre tout le temps nécessaire que ça prend, que ça requiert pour faire le gâteau en question. Donc, lorsqu'on parle de travailler pour Dieu, on dit premièrement, nous sommes tous appelés au service. Ce n'est pas réservé à quelqu'un ou à une élite. Nous sommes tous des serviteurs, donc nous sommes tous appelés à travailler. De surcroît à cela, donc, on aura un coût au niveau du temps, un coût au niveau des forces ou des efforts, et un coût au niveau de la qualité de notre rendement. Troisième, lorsqu'on parle du terme abad, on parle aussi d'un statut propre à celui qui sert. Celui qui sert n'est pas celui qui est servi. On s'entend. Celui qui sert, sert quelqu'un. Lorsque nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés à servir Dieu. Ça veut donc dire que mes efforts sont vers Dieu. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se servir eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent travailler pour leur propre profit. Devant Dieu, nous ne pouvons pas travailler pour notre propre profit. Je vais en reparler à travers les prochaines journées, mais regardez un peu ce que dit le texte. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit l'Éternel, ou les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, ou les dieux que servent les gens que vous avez expulsés du territoire en faisant la conquête. Leur propre personne n'est nullement mentionné dans ce verset-là. Ce n'est pas une des trois options. Les seules options qu'il y a, c'est servir Dieu ou servir des dieux étrangers. Ça veut donc dire que tu ne peux pas te servir toi-même et tu dois décider qui tu vas servir. Et si tu sers, tu deviens donc le serviteur de quelqu'un. Soit serviteur de Dieu ou foncièrement, tu deviens serviteur des dieux que tes pères ont servi, ou serviteur des dieux des Amoréens. Et on va expliquer ce que ça veut dire pour nous dans les prochaines journées. Mais tu dois décider et tu dois accepter que ce statut de serviteur fait en sorte que Dieu est supérieur à toi. C'est foncièrement cela. Dieu est supérieur à toi et tu sers Dieu. Mais servant Dieu, il va peut-être t'amener aussi à servir son peuple, à servir sa création, à servir ton prochain. Jésus va être très très clair là-dessus en disant à chaque fois que vous avez donné à boire au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous avez donné à boire. À chaque fois que vous avez visité le plus petit de mes frères en prison, c'est moi que vous êtes venu visiter. À chaque fois que vous avez donné à manger au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous avez donné à manger. À chaque fois que vous avez vêtu le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous avez pris le temps et l'attention pour me vêtir. Ça veut donc dire que lorsqu'on sert notre prochain, on est aussi en train de servir Dieu. Mais foncièrement, nous sommes donc des serviteurs. Ici, lorsqu'on parle de abad et de serviteur, il y a deux connotations. Donc, il y a le sujet du roi, donc le suzerain avec ses sujets. Ça veut donc dire que Dieu est au-dessus de nous. Et le sujet du roi ne pouvait jamais devenir roi. Le sujet du roi restait dans son clan social, dans sa caste sociale, ne pouvait pas devenir roi. Ça veut dire que toi, même si tu voudrais t'imposer comme maître de ta vie, si je voulais m'imposer comme maître de ma vie, je ne fais même pas partie de l'équation. L'équation est simple. Ou vous servez Dieu, ou vous servez les dieux de vos pères, ou vous servez les dieux des Amoréens que vous venez de chasser. Alors, je te pose la question, es-tu vraiment serviteur de Dieu? Dieu est-il le roi et es-tu le sujet? Dieu est-il le roi et es-tu disciple de ce roi? Mais lorsqu'on pousse plus loin même la pensée de Abad, un des synonymes qui nous écorche profondément dans notre génération-ci, Abad voulait dire esclave. Voulait dire servir en tant qu'esclave, être esclave de quelqu'un. On préfère utiliser le terme serviteur parce qu'on pense que c'est moins difficile, moins méchant, moins imposant, que ça requiert moins. Mais face à Christ, Paul va dire qu'il est lui-même esclave de Christ et que nous sommes tous en fait appelés à être esclaves de Christ. Lorsqu'il y a cette notion que Christ nous a rachetés, ici, on parle clairement de cette question des esclaves qui étaient vendus. Et Christ va racheter notre vie, va racheter notre personne. Ça veut dire qu'il devient propriétaire de notre existence et que nous sommes donc, autrefois nous étions esclaves du péché, esclaves du diable, et nous devenons maintenant esclaves de Christ. Et lorsque Josué va parler au peuple à la toute fin de la conquête, lorsqu'il fait ce discours et lorsqu'il présente ces trois options, il va dire, regardez, le choix est très clair. Soit vous devenez ou vous restez esclave de l'Éternel, ou aujourd'hui vous décidez, vous serez esclave des dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, ou vous serez esclave des dieux que les Amoréens invoquaient ici. Alors choisissez de qui vous serez esclaves. Et Josué va dire, mais moi et ma famille, nous serons abad, nous servirons, nous serons esclaves de l'Éternel. Je dois vous dire que c'est toujours difficile de servir un maître de ce monde, parce qu'un maître de ce monde a tout le temps les penchants liés au péché, liés à sa nature pécheresse. Mais lorsqu'on parle de Christ, on parle du meilleur, du plus parfait, en fait du seul parfait et excellent maître. Et puisqu'il est parfait, excellent maître, il traite donc ses esclaves avec grâce, avec amour, avec passion. Et voilà pourquoi le maître Jésus, je fais exprès d'utiliser ce terme, le maître Jésus qui se présente comme le bon berger, va dire qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que le maître Jésus a accepté de mettre sur la croix, d'accrocher à la croix cette vie qui était la sienne en faveur de ses esclaves. Il ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité un si bon maître. Il ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité un maître qui donnait sa vie, littéralement, pour le profit, pour le salut de ses esclaves. Jésus l'a fait. Et voilà pourquoi je n'ai aucune crainte aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, de me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, si je dois servir quelqu'un, ce sera toi et ce sera toi, uniquement toi et toujours toi. Donc, créer pour servir, servir à un coût, servir impose chez moi le statut de serviteur. Et dernier point rapidement ce matin, on sert qui? Il y a un bénéficiaire de notre service. Notre service sert à quelqu'un. Et ici, Josué le dit clairement, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Donc le service est envers l'Éternel, le service est au profit de l'Éternel. Et qui est l'Éternel? Que veut dire le terme éternel, Yéhovah, qu'on a mentionné tout à l'heure et qu'on a déjà épelé pour ceux qui étaient là au tout début? Qu'est-ce que veut dire l'Éternel? Ça veut dire celui qui est et celui qui existe. Comparativement, toujours comme on l'a déjà mentionné régulièrement, comparativement aux autres qui ne sont donc pas, qui n'existent donc pas, qui sont donc de la fabulation, qui sont donc des mensonges. Lorsque Josué va présenter l'Éternel, servir l'Éternel et qu'il va utiliser sciemment et délibérément, de façon inspirée, le terme Yéhovah, il dit à ceux qui l'écoutent, servez le seul et l'unique qui existe. Alors c'est futile, ça serait stupide pour nous et assurément pour le peuple d'Israël à l'époque, de dire voilà, je suis appelé à servir. J'ai la nature d'un serviteur en moi, et au lieu de servir celui qui est et celui qui existe, je vais servir les autres qui ne sont donc pas et qui n'existent donc pas. Il n'y a personne qui aime perdre son temps. Il n'y a personne qui aime s'essouffler et puis s'épuiser au service de quelqu'un qui n'existe pas. Et lorsqu'on sert l'Éternel, on sert le seul et l'unique Dieu qui existe. Les autres sont faux. Mais tu n'as pas d'autre choix. Tu sers l'Éternel et la véracité de ce qu'il est et la véracité de ce qu'il représente et la véracité de ce qu'il contrôle. Ou tu sers les dieux de tes pères et les dieux des Amoréens qui n'existent pas, qui ne sont pas, qui ne sont en fait que fabulation, mensonge et création du diable pour te tromper. Alors ce matin, qui vas-tu servir? Tout au long de cette semaine, c'est la question qui va revenir et c'est le thème que j'ai établi pour cette semaine, choisir qui je servirai. Est-ce qu'on a vraiment ce choix? Tout à fait. Et est-ce que c'est un choix de mettre l'Éternel contre tous ceux qui n'existent pas? Tout à fait. Parce que l'histoire de l'humanité est composée de générations et de générations qui ont servi futilement des faussetés, des mensonges et des fabulations. Aujourd'hui, tu as l'occasion de choisir toi aussi qui tu vas servir. L'Éternel qui est vrai et qui existe ou tous ces dieux qui sont de fausses représentations, de faibles imitations et qui ne camouflent simplement que le père du mensonge, le diable lui-même. Alors, si je sers, qu'est-ce que je dois comprendre? Si je suis appelé à servir, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre de toute manière que je n'ai pas d'autre choix. Je suis créé pour servir. J'ai ça dans ma nature même. Je vais servir. La question, c'est qui vais-je servir? Deuxièmement, sachant que le service a un coût. Ça a un coût au niveau du temps. Ça va te demander du temps de servir Dieu. Ça va te demander des efforts de servir Dieu, que ce soit un coût en effort physique, en effort spirituel, en effort psychologique, en effort émotionnel, en effort même pécunier à l'occasion. Donc, il y aura un coût à servir Dieu. Et enfin, il y a une qualité. Donc, tu vas pouvoir décider, est-ce que je donne à Dieu toute la qualité de mon service ou je lui donne simplement vaille que vaille, qu'il se contente de ce que je lui donne et puis de toute manière il sait que je ne peux pas lui donner autre chose. La Bible dit qu'on doit aller de progrès en progrès. Donc dans notre service, on est supposé s'améliorer. quotidiennement par l'apport du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, par l'instruction que le Saint-Esprit nous donne. Quand je suis serviteur, j'ai un statut de serviteur. Donc, je suis un sujet du roi. Je ne suis pas équivalent à lui. Je ne suis pas égal à lui. Je ne le serai jamais. Je ne pourrai jamais l'être. Si je suis serviteur, je suis donc esclave du meilleur, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs maîtres qui soient. Et enfin, mon service ne me sert pas moi, mais mon service sert le seul et l'unique qui existe, l'Éternel, notre Seigneur Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin, une petite gorgée. Et par la suite, on prie. Et puis, on va prier aussi pour les trois requêtes qu'on a mentionnées ce matin, mon père, le pasteur Jonas et le frère Éric. Seigneur, merci pour cet enseignement, merci pour cette parole qui nous secoue peut-être ou qui nous ramène à l'ordre par rapport à qui doit recevoir le profit, les fruits de notre service et ce que ça impose. Seigneur, nous comprenons que nous avons été créés pour servir. Alors Seigneur, ne pas servir, c'est aller à contre-nature de qui nous sommes. Alors nous prions, Seigneur, qu'effectivement tu trouves chez ma sœur, chez mon frère, chez moi-même, cette disposition naturelle, tournée vers toi pour te servir. Seigneur, nous comprenons que le service aura un coût. Ça va nous demander du travail, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander du temps. Ça va nous demander aussi une précision dans la qualité du service que nous offrons. Alors nous prions, Seigneur, que nous n'ayons pas peur du prix à payer, mais que nous soyons effectivement engagé dans tous les sens du terme, dans l'exécution d'un service qui t'honore et qui élève ton nom. Seigneur, nous comprenons aussi que le statut de serviteur est un statut tout particulier. Je suis serviteur, tu es le maître. Je suis esclave, tu es le maître. Je suis un sujet, tu es le roi. Et malgré les mensonges du diable qui ont fonctionné avec Adam et Ève et qui régulièrement fonctionnent pour nous aussi, nous fait miroiter le potentiel de devenir comme des dieux, nous ne pourrons jamais être comme des dieux puisqu'il n'y en a qu'un seul et celui-là est inatteignable. Il est plus parfait que le meilleur de ce que nous pourrions être avec tous nos efforts et avec toutes nos tentatives. Alors Seigneur, oui, j'admets que je suis serviteur, que régulièrement je veux prendre ta place, que régulièrement je te vole de cette première place que tu dois avoir dans mes pensées, dans mon attention, dans mes désirs, dans mon travail. Mais je prie Seigneur qu'avec cette parole qu'on entend aujourd'hui et toutes celles que nous écouterons cette semaine, que nous n'allions pas futilement mettre des efforts où ça ne profite pas à l'avancement de ton royaume et à élever ton nom et ta personne. Seigneur, c'est toi que nous servons, le seul et l'unique. Je brise les mensonges du diable qui nous font croire que d'autres existent. Je brise les mensonges du diable qui nous font croire que nous pouvons nous-mêmes prétendre à ta stature. Tu es le meilleur, tu es le seul, et je te bénis pour cela. Prends cette journée, Seigneur, utilise-la à ta gloire. Utilise-moi à ta gloire, que je puisse te servir avec tout ce que je suis et avec tout ce que j'ai. Et qu'à la fin de cette journée, Seigneur, si tu faisais le bilan avec nous de cette journée, que nous puissions entendre ta voix qui nous dirait « Bon et fidèle serviteur ». Je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Je prie aussi, Seigneur, pour ces trois personnes qu'on a mentionnées ce matin, le pasteur Bernard, mon père, qui est toujours hospitalisé. Merci de l'aider dans les examens qu'il doit encore passer aujourd'hui. Tu vois, ceux qui ont été retardés par différentes choses la semaine dernière, on prie, Seigneur, que tu puisses accélérer le processus afin, Seigneur, que tous les examens puissent être faits et qu'un traitement approprié soit donné à ton serviteur pour qu'il puisse retourner à la maison. Nous prions aussi, Seigneur, pour le pasteur Jonas qui est peut-être actuellement même sous anesthésie pour son opération. On prie, Seigneur, que tu puisses intervenir, que tu guides les mains du chirurgien, que tu guides, Seigneur, tout le personnel hospitalier, médical qui est autour de lui. Bénis-le, Seigneur. On prie, Seigneur, pour Eric, qui est à l'hôpital encore ce matin. Tu vois les difficultés physiques qu'il peut rencontrer. Et plus encore, Seigneur, peut-être les défis au niveau émotionnel, au niveau spirituel qu'il rencontre avec cette dure épreuve. Nous te demandons, Seigneur, de le soutenir. Soutiens aussi sa famille, oh Dieu. D'avance, on prie, Seigneur, pour Gabriel, qui doit avoir cette ponction lombaire, Seigneur, jeudi, pour voir où en sont rendus les traitements, comment son corps réagit. On sait, Seigneur, que c'est toujours critique d'aller toucher à la moelle épinière. On prie donc, Seigneur, que tu puisses étendre ta main et que tu assistes Gabriel, Seigneur, dans ce test, mais que tu l'étonnes aussi, Seigneur, par ce que tu vas faire pour lui et que tu puisses, Seigneur, te révéler à ce bien-aimé. Alors, en toute chose, Seigneur, merci pour cette journée. Garde-nous, utilise-nous et que toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de Jésus, notre Maître, notre Seigneur. Nous voulons te servir. Amen. Alors voilà, c'était la bénédiction pour ce matin. On se retrouve demain matin, 8h30, pour la suite. Et puis, bien sûr, ce soir, c'est notre temps de cours biblique avec le pasteur André, toujours sur le livre des Actes. Donc, on vous invite à être là dès 19h ce soir. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée dans la présence de Dieu et servez bien le Seigneur aujourd'hui. Bonne journée à tous, au revoir.